Je suis honoré de vous rencontrer.
Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme?
Ça vous dérange pas que... J'essaie.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette période un peu particulière. Aujourd'hui, un épisode centré vraiment sur la création, la créativité. On va parler écriture avec Nyx. Nyx est une autrice très active dans la communauté francophone d'écriture amateur, puisqu'elle a notamment créé une communauté basée sur l'entraide avec de fréquents challenges pour faciliter la création littéraire. Elle anime tous les mardis un podcast sur l'écriture qui s'appelle I Can't Word, où elle y aborde tous les aspects de l'écriture, de la technique aux aspects dont on parle un peu moins, tels que le marketing, la relecture d'une œuvre, la pression auto-suggérée, etc. Vous allez voir que Nyx a une connaissance très pointue de ce milieu, ce qui rend ses conseils encore plus précieux. Je vous laisse découvrir ça ensemble avec elle. Bonne écoute.
Bonjour Nyx.
Salut.
Comment tu vas?
Bah écoute, ça va plutôt bien et toi?
Ça va, ça va. On se dimanche plutôt gris ici.
Ah ici, écoute, ça va. C'est assez, assez peu typique hein, de voir du bleu en octobre en Belgique, mais... Ouais. Elle a fait un effort.
C'est génial, c'est pour les Vieux-Arts. On a fait le ciel bleu, c'est le bleu est la couleur dominante de Vieux-Arts, comme 80% des marques.
Je vais te demander de venir me parler tous les jours parce que j'en ai un peu marre qui flotte. Donc,
je sais pas si je pourrais, mais.
Ah, mais c'était pas une question.
Pas le choix.
Exactement. Bon,
bah, okay. J'enverrai la facture à la fin du mois.
Allez, on fait comme ça.
Bah, t'imagines un Patreon pour être rémunéré à amener du soleil.
Bien sûr.
C'est l'histoire de Weathering With You, le dernier film qui est sorti du japonais, là, j'ai oublié son nom. On parlait de mémoire avant le podcast, mais tu vois, c'est un exemple flagrant.
Moi, on va me demander, parce qu'en plus, niveau film, je m'y connais absolument pas. Genre, j'ai une très mauvaise culture filmique, donc...
Là, bah, c'est un animé, je t'enverrai le lien après. C'est, okay. C'est génial. Écoute, moi je te reçois aujourd'hui parce que déjà j'aime beaucoup ce que tu fais, je t'ai connu sur Twitter, comme je rencontre pas mal de gens, que je trouve qu'il y a un réseau social hyper prenant en termes de rencontres et d'acquisition de connaissances en plus. Tu es autrice.
Oui.
Tu écris beaucoup.
Oui.
En tout cas, dans mes critères c'est beaucoup, mais c'est de façon positive que je dis ça. C'est franchement, je suis admiratif de ta capacité à écrire. Et du coup, je voulais te poser une première question. C'est pourquoi l'écriture? Qu'est-ce qui t'a lancé dans ce bain-là? Et ça fait combien de temps que t'écris? Enfin, si tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie de toi.
Ok. Alors, il faut savoir que j'étais une gamine très précoce et vraiment, c'était perturbant pour tout le monde autour de moi. Parce que pour parler du début de l'écriture, il faut parler du début de la lecture. Et donc, j'ai commencé à lire. À 4 ans et à 5 ans, je lisais déjà des romans. Et à 6 ans, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. C'était beaucoup trop tôt. Genre, faites pas ça avec vos gamins. je me suis dit, mais je veux faire ça, en fait. Du coup, j'ai commencé à ce moment-là. Donc, maintenant, j'ai 23 ans. Donc, il va falloir faire des maths. Ça fait 17 ans que j'écris. Alors, évidemment... On peut pas dire que j'écris de manière professionnelle depuis 17 ans, parce que ça, c'est faux. Mais ça fait 17 ans que tous les jours ou presque, je m'arrête à mettre quelques mots sur le papier. Alors, j'ai beaucoup fait du RP écrit, j'ai beaucoup fait de la fanfiction, et maintenant, je me penche sur mes projets originels, parce que j'ai aussi des histoires à raconter qui m'appartiennent. Et du coup, voilà. Quant à savoir pourquoi je suis restée sur l'écriture, aucune idée, c'est juste, pour moi c'est naturel, c'est vraiment c'est tout le temps, si je m'ennuie, ben je vais ouvrir Word, c'est vraiment le premier truc qui va me venir, même si je suis sur un projet qui me fait pas forcément du bien, parce que je suis sur une phase qui m'ennuie, comme la relecture orthographique, moi je déteste ça, parce que je fais très peu de fautes, et du coup pour les voir c'est d'autant plus compliqué, mais je vais quand même, c'est quand même mon instinct en fait qui me pousse, systématiquement à me dire, ah bah allez, je vais aller écrire.
Ok. Et du coup, tu viens de dire un truc qui m'a qui m'a un peu surpris. Tu dis écriture pro. Comment tu le différencies, toi, par rapport à l'écriture en amateur?
Pour moi, l'écriture en amateur, c'est vraiment une écriture qui est là que pour te faire t'amuser. Et t'as pas envie... Enfin, tu recherches pas forcément le progrès. Tu recherches pas les nouvelles connaissances, etc. Je considère que j'écris de manière professionnelle ou vers... Enfin, ou en tout cas que je tends vers une pratique professionnelle depuis que j'ai 15 ans. C'est-à-dire que c'est là que j'ai commencé à me renseigner, en fait, plutôt sur comment écrire, comment bien écrire, la narratologie, les ouvrages de référence qui sont plutôt en anglais, pour le coup. C'est là que j'ai commencé à écouter des podcasts, à regarder des vidéos, etc. Et du coup, en fait, pour moi, l'écriture pro, c'est vraiment une écriture où même si tu pratiques pas forcément dans le but d'être publié, parce qu'il y a des textes qui sont tout simplement pas destinés à la publication, tu vas quand même essayer d'apprendre quelque chose et de progresser, de devenir meilleur. Et pour moi, tu ne peux pas écrire de manière pro si ton but n'est pas d'être lu. C'est-à-dire que les gens qui gardent leur projet pour eux, qui n'en partagent absolument rien, même en gratuit sur Wattpad, ça compte comme du partage. Hein. Mais ceux qui ne partagent pas du tout n'ont pas pour moi l'envie de progresser parce qu'en fait, il n'y a pas la pression de « Oh là là, il faut que je devienne meilleur parce qu'il y a des gens qui vont me lire et je ne peux pas présenter n'importe quoi à des gens qui vont me lire. »
Mais c'est aussi ce qui paralyse beaucoup de gens.
Oui, bien sûr. C'est très paralysant pour certains. On a un peu une peur que moi j'associe, en tout cas chez moi, à la peur de monter sur scène. Parce que je suis comédienne de formation et du coup je connais bien cette peur. Et donc, tu vas t'exposer à des gens. Et cette peur, c'est à toi en tant qu'auteur de faire en sorte qu'elle ne te paralyse pas. C'est comme un comédien en fait. S'il a tellement peur en montant sur scène qu'il est incapable de déballer la première réplique, ça va pas. Mais à l'inverse, s'il a aucun stress, vraiment aucun, c'est pas normal non plus. Il y a plein de comédiens très célèbres qui te disent que même encore aujourd'hui, après une carrière entière à monter sur les planches toutes les semaines, ils ont encore le trac. Et c'est normal. Et on devrait avoir le trac aussi un petit peu en écrivant ou en publiant. Parce que si t'as pas le trac, ça veut dire que tu t'en fiches de manière négative
de ce que les autres
pensent. C'est ça. Genre, les gens qui n'ont pas le trac, c'est souvent des gens qui écrivent des histoires. Je vais même pas parler de qualité, mais je vais parler de respect des attentes du lecteur. Et en fait, ils s'en fichent un peu. Alors, on a ce qu'on appelle notamment le contrat de suspension de l'incrédulité, qui est un contrat tacite qui est passé entre l'auteur et le lecteur. Et ces auteurs-là, donc les auteurs qui ne ressentent pas le trac, ne respectent pas ce contrat, par exemple. C'est un contrat inconscient, c'est de la théorie littéraire à son paroxysme, mais j'adore cette matière, donc la matière du contrat.
Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste,
alors, ce contrat-là que tu as décrit ? Du coup, le contrat de suspension de l'incrédulité, c'est un contrat tacite par lequel le lecteur et l'auteur s'engagent dès que le lecteur commence à lire le roman de l'auteur. Alors c'est vraiment, quand je dis que c'est tacite, ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance de ce contrat d'un côté ou de l'autre. C'est juste, c'est quelque chose d'instinctif. Et donc du côté du lecteur, tu vas t'engager à suspendre ton incrédulité, c'est-à-dire suspendre toute la logique que tu as du monde autour de toi, tes connaissances, etc. Parce que tu acceptes que tu t'embarques dans un voyage, dans un monde parallèle, que ce soit un monde totalement différent du nôtre ou tout simplement une romance à Londres. Voilà, ça va être différent. Et donc, tu suspends ton incrédulité pour te laisser emporter par l'histoire, les personnages, l'univers. Et du côté de l'auteur, ton engagement, ça va être que les règles que tu établis, tu les respectes. Par exemple, si je dis que la magie ne peut pas créer la vie, je dois respecter le fait que la magie ne peut pas créer la vie. Ou alors je dois justifier très lourdement. Pourquoi. Mais vraiment... ces justifications sont risquées et vraiment il y a des règles que tu établis toi-même que tu peux pas dépasser. Par exemple, t'as des univers où la mort n'est pas grave, je pense à La Faucheuse de Neil Schusterman, mais où une fois que tu es tué par une faucheuse, tu restes mort.
Okay.
Et tu dois respecter ça. Et si Neil Schusterman avait commencé à faire tuer des gens par des faucheuses et à les ramener à la vie à tout bout de champ, les gens auraient jeté son bouquin.
Je vois ce que tu veux dire. J'ai eu la même sensation quand... Alors là, c'est plus de l'œuvre cinématographique, mais j'ai eu la même sensation quand dans Star Wars, d'un seul coup, grâce à Disney, on a pu se mettre à passer des appels téléphoniques à travers la galaxie. et à téléporter des objets. Donc, la force toute puissante qui peut tout faire. C'est ok, merci pour cette explication, je comprends
de
bien.
Rien.
Mais c'est vrai que du coup, tu soulignes un point que trop souvent, je pense beaucoup de gens négligent. L'écriture, c'est pas juste se poser sur un bureau et écrire sur une feuille sans réfléchir. C'est vrai qu'il y a un moment, il doit y avoir cette prise de conscience comme quoi il y a des questions à se poser déjà de base. Mmh. Quand j'ai vraiment commencé, alors moi j'écris, mais j'ai encore, je crois, j'ai dû faire lire 2 chapitres à des gens très très proches et rien d'autre. Mmh. Mais c'est vrai que dès que j'ai commencé à vouloir écrire un peu sérieusement, alors moi dans mon vocabulaire c'était plus sérieusement que professionnellement parce que je sais pas, je me sens, ouais. Ça me faisait peur de me dire professionnellement, mais direct tu dois te poser des questions quoi, déjà des questions de base, alors qui vont peut-être te paraître bêtes, mais à quelle personne j'écris, qu'est-ce qui me correspond le plus, parce que c'est vrai que j'ai tendance à plus vouloir écrire à la première personne parce que ça me permet de me mettre dans la peau du personnage, mais du coup t'as des limitations assez fortes sur ce qu'il peut percevoir des autres, donc t'as pas du tout d'omniscience ou quoi que ce soit, à moins que le personnage ait un pouvoir d'omniscience, mais rien que ça c'est une première question. Dans quel cadre tu te mets, tu t'aperçois qu'il vaut mieux définir tout ton univers aussi à côté avec des notes. T'es obligé de prendre des notes, sinon tu vas oublier des trucs.
Ou d'utiliser une bible sérielle.
Une quoi ?
Une bible sérielle. J'en parle parce qu'en fait, c'est un truc qui existe côté anglophone, mais pas du tout côté francophone. Et du coup, j'en ai mis une en vente récemment sur mon Utip. Voilà. Une bible sérielle,
c'est quoi du coup ?
C'est un document dans lequel tu vas noter des informations de manière ordonnée sur ton univers. Donc, c'est-à-dire que tu vas noter tes personnages avec des caractéristiques, tu vas noter la chronologie de ton univers avant et pendant tes romans, tu vas noter la liste de tes pays, si tu écris de la fantasy ou de la SF, et de tes nations, etc., avec leurs caractéristiques, comment elles interagissent, tu vas éventuellement rajouter un bestiaire, etc. Et en fait, ça te permet... Quand tu écris, par exemple, la suite de ton tome 1, ou alors vraiment ton tome 2, et qu'il y a eu du temps entre la dernière fois que tu as écrit et celle-ci, d'aller chercher les informations dans un document où elles sont triées et classées, et du coup, comme ça, t'as pas à aller chercher dans les 250 pages de ton roman, au cas où tu l'aurais peut-être dit.
Le logiciel dont tu parles, c'est Milanote, non ?
Non, c'est pas un logiciel, moi c'est un document Word, vraiment.
D'accord, ok.
Et vraiment, c'est un document qui sert un peu... Oui, de bible sérielle, c'est un peu une encyclopédie en fait.
Ouais, c'est vrai que j'utilise aussi un document à part sur lequel je reviens et j'ajoute des infos. Quand je me suis aperçu que j'étais même plus capable de me souvenir de la couleur du cheval de tel personnage que j'avais écrit il y a quelques mois, j'étais là, bon, c'est pas possible, il faut que tu prennes des notes parce que là, revenir dans les chapitres pour chercher la couleur du cheval, ça devient dur.
Soit tu planifies. Et donc tu écris ces informations à l'avance, soit tu les écris genre vraiment dès que t'as fini un chapitre, tu relis le chapitre pour bien renoter toutes les informations que t'as données dans ta bible. Ou alors tu fais un mélange des deux, quand tu aimes bien te rajouter du travail. Devine quelle option j'ai choisie.
Te rajouter du travail.
C'est une aventure, j'adore ça.
Mais du coup, toi tu sais à l'avance, alors... Peut-être pas tout ce qui va se passer, mais t'as une idée globale du voyage de ton héros, du début à la fin, ou tu sais juste le début, juste la fin, ou juste le début.
Alors, déjà pour moi, il y a 2 écoles en termes d'auteur. Donc, alors il y a beaucoup de gens qui vont te parler d'architecte et de jardinier, mais je suis pas d'accord avec ce découpage comme étant un absolu. J'en ai beaucoup parlé sur des podcasts, dans des threads, sur des articles... Enfin, sur mon blog, pour moi, il y a un spectre, comme un peu le spectre du blanc vers le noir. Et d'un côté, tu as les planificateurs et de l'autre, les improvisateurs, qui sont des absolus idéalisés que personne ne peut atteindre, ou presque. Et de toute façon, il ne faut pas forcément chercher à les atteindre, parce qu'il faut chercher plutôt sa position sur le spectre. Et donc, l'improvisateur, ce que lui fait, c'est qu'il a vraiment aucune idée de ce qui va se passer, juste il écrit vraiment très au feeling, et après il a souvent beaucoup de travail de relecture quand il a fini son roman, parce qu'il y a forcément des incohérences qui s'y sont glissées, il s'est beaucoup penché sur les personnages parce que les personnages auront guidé son scénario, mais par contre, son scénario, lui, manque un peu d'intensité. Et de l'autre côté, t'as les planificateurs qui mettent sur papier, avant d'écrire le premier mot de leur histoire, vraiment une espèce de synopsis détaillée de tout ce qui va se passer, et qui ensuite écrivent vraiment le roman, une fois qu'ils ont toute l'histoire. Et eux, c'est l'inverse, ils ont souvent un très bon scénario, mais des personnages qui manquent d'identité et de but et de motivation. Et du coup, quand on parle de moi, je suis plutôt du côté des improvisateurs, mais j'intègre de plus en plus d'outils de planificateurs dans mon histoire. Genre par exemple ici, je travaille sur une fantasy, c'est un très gros projet en 4 tomes, très complexe, et du coup je me suis dit, ma cocotte, si tu veux t'en sortir, t'as intérêt à le planifier celui-là. Et du coup, hier j'ai écrit un premier synopsis avec une méthode que j'affectionne beaucoup qui s'appelle la méthode Save the Cat. Et ensuite je vais écrire un synopsis chapitre par chapitre, et je serai prête d'ici au nano à commencer à l'écrire.
Alors ouais, y a tellement de choses sur lesquelles je vais te poser des questions là-dedans, mais on va devoir choisir. Tu vas nous dire un peu après ce que c'est que le nano, mm-hmm. Que j'ai découvert grâce à toi d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout. La méthode Save the Cat, brièvement, c'est...
C'est une méthode d'écriture qui découpe n'importe quel récit, qu'il soit cinématographique ou littéraire, ou vraiment même un jeu vidéo, en 15 pulsations. Et chacune de ces pulsations a une importance par rapport au voyage du personnage à travers le récit.
Les pulsations, c'est des points clés de passage, c'est ça ?
C'est ça. Même si t'as des pulsations qui sont en plusieurs scènes et des pulsations en une seule scène, j'appelle ça des pulsations parce que ça n'existe pas en français et qu'il fallait bien traduire les concepts. D'accord. Comme je pouvais. Et du coup, bon, voilà, je m'en suis sortie comme je pouvais.
Et c'est... Ouais, t'as vraiment... t'implique vraiment justement dans ce travail de français, je sais même pas comment ça se dit, de rendre français ces concepts littéraires. Je sais, il y a un mot pour ça ou pas? Ça
traduction
me ouais, non mais
francisation. Dire,
ouais, francisation, c'est peut-être ça que je cherchais, mais ouais, en gros t'es vraiment impliqué dans cette traduction un peu des concepts littéraires qu'il y a beaucoup dans la langue anglaise. Peut-être pas assez dans la langue française, ou en tout cas peut-être pas assez connue, potentiellement.
Très peu.
C'est vrai que c'est intéressant, et je pense que c'est pour ça que t'as aussi pu créer une communauté autour de toi. Moi, je trouve que t'as une vraie communauté littéraire, et c'est génial, ça donne vraiment
un vrai partage. Des choses qui les ont attirés, mais c'est surtout que... Enfin, je pense que beaucoup de gens ont été attirés dans cette communauté, entre guillemets, parce qu'ils aiment bien l'image de professeur que j'ai. C'est très littéral, parce que je donne des cours de narratologie. J'ai plusieurs élèves en cours particulier. Mais surtout, quand tu regardes mes threads, mes articles, mes podcasts, etc., j'essaie toujours d'apprendre quelque chose aux gens liés à l'écriture. Et c'est souvent des choses qu'ils ne soupçonnaient pas. Comme le fait qu'un prologue, par exemple, c'est censé être une seule scène. Pas plusieurs scènes, pas long, une seule scène. Courte, impactante. Voilà, c'est tout des choses comme ça. J'ai aussi des gens qui étaient très surpris de découvrir que... Alors ça, c'est très récent, parce qu'ils l'ont découvert pendant le Preptober. Tous les personnages ont une convoitise. Et cette convoitise est un défaut automatique que tous les personnages partagent, parce que tous les êtres humains la partagent.
Alors attends, qu'est-ce que t'entends par convoitise ?
C'est le fait de vouloir quelque chose et d'être prêt à faire du mal pour l'obtenir.
D'accord.
Tout le monde a quelque chose qu'il veut, et parfois c'est quelque chose de très altruiste. Tu veux la paix. Mais si tu veux la paix au point de tuer les gens qui s'y opposent, c'est de la convoitise. Et tout le monde convoite quelque chose. Et ça peut être quelque chose d'aussi con que les galettes de ta grand-mère, hein. Je dis pas, mais tu convoites quelque chose.
Ouais, non, clairement, je comprends. Ok. Et toi, du coup, est-ce que tu aimes cette image de professeur
C'est-à-dire que je l'ai choisie. Donc, parfois, c'est un peu ennuyeux parce que j'aime pas trop non plus que les gens ne fassent pas d'efforts de recherche et pensent pouvoir avoir absolument toutes les réponses sans aucun effort en venant chez moi. C'est un problème que j'ai notamment avec certains de mes anciens élèves qui vraiment faisaient pas l'effort de faire un minimum de réflexion et s'attendaient à ce que je leur donne les réponses de leur propre bouquin toutes cuites dans le bec. Ça, j'aime pas trop, mais sinon tout le reste, j'adore en fait. J'aime beaucoup partager ce savoir et j'espère contribuer à ce que la littérature francophone contemporaine s'améliore et qu'on ait vraiment des petites perles qui apparaissent, qui soient de plus en plus traduites, qui soient de plus en plus mondialisées. Parce que je trouve qu'on a des écrivains qui ont un potentiel fabuleux côté francophone, mais comme on n'a pas des formations à l'université, comme on n'a pas autant de matériel et de ressources que côté anglophone, et que tout le monde n'est pas bilingue, bah finalement on se retrouve avec des auteurs qui ont un potentiel génial et qui n'ont pas les outils en fait pour aller au-delà de ce potentiel. Parce que le potentiel, c'est vraiment, c'est 5% du talent d'un auteur, et tout ce qui reste, c'est du travail. C'est-à-dire que tu peux être un auteur extrêmement doué, sans talent, sans potentiel, mais par contre, sans travail, tu peux pas être un auteur doué. C'est pas possible. Personne n'est doué sans effort. Et ça vaut pour tous les arts, pour tous les sports.
Et tu penses que avec beaucoup de travail, n'importe qui peut devenir auteur ou pas ?
Oui. Parce que, par exemple, la méthode Save the Cat, c'est une méthode que tu peux apprendre par cœur et que tu peux appliquer à n'importe quel scénario.
Ça me fait penser à ce que tu dis à certains auteurs. Alors, j'ai pas trop envie d'être critique, trop critique non plus, mais t'as l'impression qu'il y a des auteurs très connus, tout du moins, qui sont un peu des robots. Moi, quand je vois quand il y a des mecs qui sortent un bouquin par an,
oui,
toujours sur le même modèle,
je vois me dis... de quels auteurs tu parles.
Je me dis, soit ils ont des écrivains fantômes derrière qui...
Des prêts de plume.
Ouais, voilà. Je ne voulais pas utiliser l'autre mot négatif ouais, qui existe depuis des années. Les prêts de plume, c'est un très joli mot. soit ils ont 10 prêts de plume derrière qui leur écrivent des romans que eux pondent comme ça en balançant 2-3 idées, soit ils ont vraiment une façon d'écrire prédéfinie, un calque sur lequel ils collent toutes leurs histoires, quoi. Et enfin, bon, pour n'en citer qu'un, quand tu lis un Dan Brown, tu les as tous lus, quoi. Mm-hmm. Et après, c'est vrai que faut pas non plus tomber dans cette robotisation.
D'une part, c'est vrai que genre les prêts de plume, c'est une pratique qui est très répandue chez les grands auteurs parce que tout simplement ils n'ont pas le temps d'écrire autant que leur maison d'édition le voudrait. Et il suffit de mettre le nom de certains auteurs sur une couverture pour que ça vende. Le problème, c'est pas les auteurs dans ce cas-là, c'est le marché de l'édition qui brasse le plus possible sur ses acquis et qui essaye du coup de ne pas trop aller dans l'inconnu. Cela dit, écrire un roman par an, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable. Et quand tu gagnes de l'expérience, en fait, t'as une méthode qui est de plus en plus rodée, de plus en plus fixée. Et il y a notamment un podcast qui se centre là-dessus en anglophone, ça s'appelle Writer's Routine. Et tous les jours, en fait, enfin tous les jours, non, tous les épisodes, il va aller parler à un auteur qui a réussi et lui demander justement c'est quoi sa routine les jours où il écrit, ça ressemble à quoi une année de publication pour lui, parce que c'est genre en février j'ai l'idée, en mai je termine le premier jet, en octobre le livre est prêt à partir et il est publié en novembre, et puis je pars en tournée des librairies et des blogs et des conventions pendant 2 mois, enfin voilà. Ces auteurs-là, en fait, suivent ce schéma. Cela dit, c'est vrai que les gros auteurs francophones, on leur demande de ne pas varier de leur schéma d'écriture. On leur demande de produire toujours la même chose. Ben oui, mais ça vend. Parce qu'il faut savoir que ces auteurs-là, donc c'est peut-être 1% du monde littéraire, mais c'est eux qui financent pour 90% du monde littéraire.
Mais, ouais, mais tu vois, c'est ce qui fait que j'ai personnellement jamais eu envie de lire, par exemple, du Musso, à cause de ça, en fait. Je me dis, le pauvre, ou pas, hein. j'ai l'impression qu'on lui demande toujours la même chose, quoi.
Ouais, après, ils peuvent refuser. Ils sont très heureux de gagner tout cet argent, je pense.
Non, c'est clair. Mais je vais revenir dessus juste après, sur la question... De gagner sa vie avec l'écriture, mais du coup, c'est vrai que tu disais qu'on peut clairement sortir un roman par an.
Ouais.
Je te crois, surtout quand je vois justement, je voulais revenir sur le NaNoWriMo. Mm-hmm. Si tu peux nous expliquer ce que c'est. Alors, oui. Moi j'ai connu ça grâce à toi, et en même temps, pour moi ça a l'air d'être un truc tellement énorme, dans le sens difficile à faire.
Ouais.
Quand j'ai découvert le concept à travers tes tweets, je crois que je me suis abonné à toi en plein NaNoWriMo.
C'est possible, je suis très actif pour les nanos.
Voilà, donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû te découvrir via des likes, etc. Et y a une phrase qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune, alors je sais pas la phrase exacte, mais en gros, qui dit que quand un auteur écrit, c'est comme si il écrivait avec son propre sang, dans le sens que le process d'écriture fait mal, quoi. C'est pas le cas de tout le monde, c'est justement.
Voilà, et c'est une idée dangereuse, mais je reviendrai là-dessus juste après. Parce que du coup, sinon, je vais jamais expliquer ce que c'est que le nano.
Vas-y.
Alors, le nano, c'est 50 000 mots en un mois, en novembre. Donc, c'est le mois national de l'écriture de romans. Alors, ils disent national, mais finalement, on peut dire international, parce que à la base, ça vient des États-Unis, et finalement, le monde entier le fait. Et donc, il y a des règles au nano en novembre, c'est tu dois écrire un nouveau projet, tu dois le finir ce mois-là, et tu dois avoir écrit minimum 50 000 mots. Voilà, il y a très peu de gens
qui respectent ça. Ça fait 1600 mots par jour.
Un peu plus, ouais. Et il y a très peu de gens qui respectent toutes ces règles-là. Genre, moi, pendant un an, j'étais en mode « Ouais, non, rien à foutre, je continue les projets sur lesquels j'étais, et ce mois-ci, ça va être... Enfin, ce mois de novembre, ça va être la première fois que je fais un nano dans les règles. » Cela dit, le fait d'écrire 50 000 mots par mois, au final, quand t'as une routine et une discipline, c'est pas si dur que ça. C'est pas vraiment compliqué.
Quels seraient tes conseils, toi ? Comment tu t'y prends ?
Alors, moi déjà, je fais des sprints. C'est dans les sprints que je fais le plus de nombre de mots. Qu'est-ce que c'est un sprint ? C'est 15 minutes. Donc c'est une session de 15 minutes pendant laquelle on ne fait qu'écrire. Et on a le droit de faire rien d'autre. Hors de question d'aller aux toilettes, d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller même boire. Moi, je bois pas pendant mes sprints. Vraiment, hors de question de faire tout ça. Pendant 15 minutes, t'as les mains sur le clavier et le cul sur la chaise et rien d'autre. Et du coup, j'en fais plusieurs par jour.
D'accord.
Quand je suis en mois de nano, j'en fais en général, on va dire, 4-5 par jour. Et je sépare ça de pauses entre 10 et 15 minutes. Je conseille plutôt 15 minutes. Parce que faire plus long ou faire plus rapidement, c'est prendre le risque de se blesser aux mains. Et donc là, on va revenir sur la souffrance de l'artiste. C'est très dangereux d'avoir comme idée que pour être un artiste, il faut souffrir. Parce que déjà, ça encourage beaucoup d'artistes. Alors je sais que c'est pas l'intention, mais il y a beaucoup d'artistes qui, à cause de ça, sont encouragés à se maintenir en dépression, par exemple.
Ouais.
Parce que la dépression les inspire ou je ne sais pas quoi. T'as des artistes qui sont encouragés à ne pas manger, à ne pas dormir, à ne pas faire attention à leur douleur, au dos, etc. Parce qu'il y a l'idée que si je ne souffre pas, je ne crée pas vraiment. Vraiment, c'est très dangereux. Je connais des gens qui ont fait des tentatives de suicide à cause de ça. C'est...
Ah
quand
oui.
même. Voilà, c'est... Pour moi, il faut faire très attention. Et justement, sur mon Twitter, je promeux une version et une vision de l'écriture qui est beaucoup plus positiviste. Qui est vraiment prenez plaisir à écrire. Si vous écrivez pas un roman par an, c'est pas grave, mais si vous voulez le faire, voilà comment le faire sans vous faire de mal. Prenez soin de vous, parce que sinon votre écriture ne sera pas d'une bonne qualité, parce que quand t'es crevé, t'écris forcément moins bien que quand t'es frais et dispo. Quand t'es distrait parce que tu crèves la dalle parce que t'as pas mangé depuis 18 heures, comment est-ce que tu veux te concentrer sur ce que t'écris? Et voilà, pour moi c'est vraiment cette logique qui est essentielle et qui manque dans la communauté auteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui encensent les auteurs qui légendairement ont vraiment souffert de leur écriture.
Alors, c'est comme le hustle à l'américaine sur les startups, etc.
C'est ça, ou les crushs en jeu vidéo. Les gens qui sont fiers d'avoir participé à un crush pour une grosse production. Waouh, la vache, quoi. Vous êtes fiers de vous être maltraité? C'est ça le truc, c'est ça le délire.
Il y a une espèce de narration qui est vendue là-dessus à l'international.
C'est ça, et la quoi, passion.
No pain, no gain. Voilà. Ce fameux mantra. Comme quoi tu peux faire des grandes choses qu'en souffrant et en t'y mettant à fond. Et c'est pour ça que je voulais t'amener aussi sur le sujet, parce que C'est un des trucs aussi qui fait que ça fait autant de temps que je te suis. Alors, je parle beaucoup du fait que je te suis sur le réseau, mais c'est comme ça qu'on se connaît et que moi, j'ai pu interagir avec toi.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est hyper important, en fait, c'est ce sentiment de se dire déjà, je ne suis pas seul. Oui, l'écriture, c'est difficile. Parce que, et encore, ce n'est pas forcément difficile pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Et c'est pas parce que c'est difficile pour toi que c'est grave. Mmh. Et c'est pas parce que c'est difficile non plus que t'arriveras à rien. Et t'es pas obligé de maintenir ça, quoi. C'est
ouais,
pas et en forcément fait, c'est des... un état normal. C'est ça, exactement.
Vraiment, le message, s'il y avait un message à sortir de mon Twitter, c'est si t'as un problème d'écriture, t'es pas tout seul et je peux t'aider. Parce que vraiment, tous les trucs, genre le syndrome du milieu, le syndrome de la page blanche, le syndrome de la fin qui approche, tout ça, genre, j'ai vécu, je connais, je sais faire, c'est bon, j'ai des astuces. Elles vont peut-être pas fonctionner pour tout le monde, mais j'ai toujours des pistes, et c'est pour ça, notamment, que j'ai créé mon Discord. C'est pour que ces pistes soient mises en commun avec celles de beaucoup d'autres auteurs, parce que, mine de rien, on est une centaine là-bas à participer activement, et que, du coup, tout le monde... trouve un peu chaussure à son pied et trouve une astuce qui fonctionnera pour lui.
Et tu disais le syndrome de la page blanche, bon ça c'est le plus connu, ouais. Je pense. Le syndrome de la fin qui approche et le syndrome du milieu, en deux mots.
Le syndrome du milieu, c'est quand tu commences des projets et que tu les arrêtes avant de les avoir finis. Et généralement, tu vas te rendre compte que tu as arrêté pas forcément au milieu 50%, mais au milieu, c'est-à-dire quand tu as passé la situation initiale et l'élément perturbateur.
D'accord, ça me dit quelque chose, ça.
Le syndrome de la fin qui approche, c'est un truc que j'ai expérimenté personnellement à deux reprises maintenant. C'est quand tu approches de la fin d'un roman et que tu paniques, et que du coup la panique te fait procrastiner. Et du coup finalement, ouais, tu approches de la fin de ton roman, mais beaucoup plus lentement d'un coup.
Ok, mais d'ailleurs, ça m'intéresse vachement de savoir, est-ce que toi tu... Alors, je suppose que la première réponse ça va être oui, mais est-ce que toi tu reviens sur un roman que tu viens d'écrire, mais je veux dire dans le sens plusieurs fois, quoi.
Pour la réécriture et la relecture ?
Ouais.
Bien sûr. En ce moment je réécris, alors à mon rythme, parce que finalement je vais peut-être pas le proposer à l'appel à texte que je visais à la base, parce que je... pense que je peux rentrer dans cette maison d'édition sans l'appel à texte, mais je révise en ce moment Le sourire d'Eleanor, qui est une romance, et du coup pour moi la réécriture se fait en trois phases. La réécriture macro, où tu vas regarder vraiment la structure du roman et comment chaque élément s'imbrique avec les autres, comment ça fait une histoire efficace dans son ensemble, etc. Puis tu as la structure micro, où là tu vas étudier l'efficacité scène par scène et personnage par personnage, événement par événement, etc. Et enfin, une relecture, qui est la relecture orthographique, et qui est la dernière étape, parce qu'en fait, ça fait pas de sens de la faire avant, si tu vas changer des trucs.
Et, alors, c'est marrant, parce que c'est pile poil la question que j'allais te poser après. Quand t'es mauvais en orthographe ?
Faut travailler. Faut prendre des cours. Ouais, et il faut embaucher un correcteur.
D'accord, donc c'est ce que j'ai... te dire, est-ce que tu recommandes ça, de passer par un correcteur ?
C'est-à-dire que vu que je suis correctrice moi-même, je peux pas dire non, en fait.
Alors oui.
Je vends mes propres services de correction, je serais très très stupide de dire ne faites pas de correction. Bien sûr, de toute façon, même pour les gens qui sont bons en orthographe, c'est mon cas, je pense que si on peut se le permettre, ça peut être intéressant d'aller voir un autre correcteur.
Alors, je sais que les correcteurs, ils vous faites payer en général au mot, enfin oui, un certain nombre de mots, c'est ça ?
Moi, je fais payer au signe espace compris, c'est-à-dire que pour 1000 signes espace compris, c'est 1 euro ou 50 centimes, dépendant de la formule que tu prends, parce que j'ai deux formules. Okay. Maintenant, mes prix sur le marché sont assez bas parce que j'ai pas de master en lettres modernes ou je ne sais quoi. Et du coup, ce que je fais payer, c'est une expérience pratique qui vaut forcément moins qu'un diplôme en premier lieu. Genre, mes tarifs vont augmenter avec le temps, hein. Ça, c'est inévitable. Logique. Mais pour l'instant, j'en suis là. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font payer au mot. Genre, je sais qu'il y a une correctrice qui corrige 8000 mots par heure. Et du coup, elle fait un tarif horaire à partir de ça.
8000 mots par heure. Ouais, ok. J'ai l'impression que c'est très, très, très rapide, quoi.
Oui, c'est plutôt c'est... rapide. Et du coup, en conséquence, elle te fait payer beaucoup plus cher son heure que l'heure de quelqu'un d'autre qui corrigerait moins.
Mais du coup, est-ce que quand tu corriges, tu te contentes de rester sur l'orthographe ou... bah, parce que forcément, je me dis, tu vas forcément tomber sur des phrases qui sont mal tournées.
Alors, ça dépend. Ou, tu parles de corriger moi-même ou corriger quelqu'un d'autre?
Si tu corriges quelqu'un d'autre, par exemple.
Non, je vais... Alors, j'ai deux formules dans mon portfolio, entre guillemets. La formule vraiment orthographe pure, où là, je vais, genre, si t'as une mauvaise structure, ah, mon gars, t'as pas voulu payer pour que je corrige tes mauvaises structures et que je te fasse des commentaires sur la forme et tout. Enfin, sur le fond, plutôt. Écoute, t'as pas voulu payer pour ça, c'est sans doute que tu penses savoir ce que tu fais et probablement que jusqu'à un certain point t'as raison, parce que personne n'est parfait. Du coup, je vais me concentrer sur l'orthographe. Par contre, si tu m'as pris l'autre formule qui est du coup finalement deux fois plus cher, vu que c'est 1 euro les 1000 signes au lieu de 50 centimes, là je vais vraiment prendre le temps de dire bon voilà, écoute, cette structure-là, je vais te faire une proposition où je la réécris comme ça. Ton prologue, c'est pas un prologue, fais attention, il faut le réécrire totalement ou alors il faut en faire un chapitre. Ton épilogue ne conclut pas telle ligne scénaristique. Enfin voilà, je vais faire toutes des choses comme ça. C'est, en fait, finalement, c'est même pas que de la forme que je corrige avec cette formule-là, c'est aussi un peu du fond. C'est aussi un peu de la bêta-lecture, mais payante.
D'accord. Mais, ouais, ok. Ouais, du coup, tu peux te contenter, si t'as un doute, de faire des remarques, des conseils, genre ça, j'ai pas très bien compris, est-ce que c'était volontaire ou autre, quoi.
C'est ça, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment sur un manuscrit. Et du coup la personne a payé pour ça et je lui ai dit écoute, là par exemple c'est de l'exposition pure et c'est dangereux parce que tu peux pas faire de l'exposition pure, tu dois la mêler avec de l'action sinon le lecteur il s'ennuie. Bon, je vais lui dire là tu m'as pas expliqué ce que c'était et du coup je comprends pas, et donc si je comprends pas le lecteur ne comprend pas.
Attends, l'exposition pure tu l'entends comme quand Tolkien il décrit une forêt sur 30 pages?
Comme quand, disons, imagine que les appendices du Seigneur des Anneaux étaient intégrés dans l'histoire.
Ok. Ouais.
C'est de l'exposition pure.
Ouais,
c'est les premières pages des Chevaliers d'Émeraude, par exemple.
Je n'ai pas lu.
Ah, j'ai revu l'exemple récemment, du coup.
Du coup, ça t'a marqué.
C'est ça.
Ok. Et du coup, ça me permet de. D'enchaîner sur ce que tu disais tout à l'heure, je le disais aussi, je reprenais ton propos d'avant l'enregistrement. Mm-hmm. Tu disais que c'est très difficile de vivre de l'écriture.
Oui.
À quel point et pourquoi?
À quel point? Extrêmement. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible. Et pourquoi? Pour tout un tas de raisons, mais la principale, c'est tout simplement qu'un roman ne rapporte pas assez. Et même si t'écrivais un roman par an, et que tu cumulais des droits d'auteur, etc., c'est pas assez. Cela dit, je vais noter quand même que côté anglophone, c'est possible. Mais pourquoi est-ce que c'est possible chez eux? Parce que chez eux, les avances, ça peut faire 5-6 chiffres, les avances littéraires. Chez nous, les avances, c'est même pas obligatoire. Donc t'as déjà une différence. Chez nous, un roman qui fonctionne bien, c'est un roman qui se vend 1000 exemplaires. Côté anglophone, un roman qui fonctionne bien, c'est un best-seller. Voilà, on a juste un marché qui est trop petit, en fait. Le marché francophone est trop petit pour permettre à plus d'une dizaine d'auteurs d'en vivre.
Pourtant, avec tous les pays francophones qu'il y a au monde...
Ouais, mais dans les pays francophones, il y en a combien qui consomment vraiment de la littérature de manière régulière? Il y a la Belgique, la France, le Québec, la Suisse... C'est en fait parce que nous, on peut se le permettre, on a ce luxe, et du coup, c'est totalement ancré dans la population, même la population pauvre. Genre moi, je suis pas une personne qui gagne bien sa vie, mais tous les mois, si je veux, je peux m'acheter un ou deux bouquins sans me mettre en danger.
Et dans ce cas, pourquoi ne pas pratiquer une traduction de ton œuvre?
Parce que la traduction, ça coûte cher et ça dépend pas de toi, en fait. C'est un éditeur qui fait ce choix-là. Mais par contre, je prévois d'écrire des romans en anglais que je soumettrai directement à des agents littéraires anglophones, parce que là-bas, c'est obligatoire de passer par un agent. Je veux quand même essayer d'avoir ce revenu qui est meilleur, même si ça ne me permettra pas non plus de gagner ma vie. parce que je suis pas anglophone de base. Puis aussi, une différence de marché que j'ai pas soulignée, c'est que on a les locuteurs natifs, côté anglophone, qui sont déjà beaucoup plus nombreux. Mais en plus, combien de gens ne sont pas natifs mais bilingues ? Et compare ça maintenant avec le nombre de bilingues français. Tu vas avoir des chiffres qui vont aller mais à x10, x20. Enfin, la différence est énorme. Quasiment tout le monde aujourd'hui de notre tranche d'âge est bilingue. Parce que c'est facile d'être bilingue en anglais. Ça demande du travail, bien sûr, attention. Mais je veux dire, c'est accessible, il y a plein de ressources. Tu veux être bilingue en français, t'as intérêt à te lever tôt. Hein.
Ah, c'est clair. Mais ouais, c'est vrai qu'après, t'as ce côté, au-delà de la traduction, tu perds un peu la qualité. Enfin, t'es pas au plus proche de ce que t'as écrit, c'est sûr. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit des tonnes de rééditions de certains livres avec traduction améliorée. Parce que,
Le Sorceleur, notamment.
C'est ça, exactement, que j'ai toujours pas lu, d'ailleurs. Mais il est sur ma liste, comme tellement de livres.
C'est sympa. Le problème,
c'est que j'en rajoute plus que je n'en lis, donc...
C'est typique.
J'ai beau essayer d'en lire une trentaine par an, c'est quand même... Quand on rajoute 50 par an, c'est pas possible. mais bon. Mais du coup, c'est vrai que... il faut déjà avoir cette capacité à très 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 bien s'exprimer en anglais, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et clairement, moi, c'est un truc qui me ferait peur. Et puis, en plus, tu as cette réputation des maisons d'édition où tu as l'impression que quand tu es auteur, tu récupères rien sur ton bouquin, quoi.
Parce que c'est un peu le cas. En fait, quand tu vas... il faut savoir que autant un auteur peut à peu près s'en sortir vite fait sans un éditeur, sans un chargé pub, sans un illustrateur, etc. Parce que regarde, tu prends mon cas, je suis autrice, correctrice, designeuse. Ça veut dire que si je veux, je peux sortir mon bouquin en maison en auto-édition et tout faire moi-même. Je le ferai pas. Mais, comment dire ? Parce que ça demande trop de travail. Et que je préfère écrire des romans que passer 10 ans sur un projet toute seule. Un seul projet, alors qu'en 10 ans en édition, je peux en écrire 10, 20. Voilà, d'un point de vue financier, c'est...
Alors, ça m'intéresse énormément, parce que t'as l'impression aujourd'hui qu'il y a une histoire qui t'est vendue, comme quoi, grâce à la technologie, grâce à Amazon et tout ça, aujourd'hui, c'est plus facile que jamais de s'auto-publier, et que ça demande pas énormément de boulot.
Alors, c'est plus facile, oui. Par contre, ça demande toujours autant de boulot.
C'est une fiction, ça, cette histoire ?
En fait, le changement, c'est que maintenant, tout le monde peut acquérir les compétences nécessaires. Alors qu'avant, par exemple, il n'y avait pas Photoshop. Et du coup, pour faire des couvertures, il fallait vraiment avoir des compétences très particulières et très ciblées. Et même encore, il y a 5 ans, Photoshop, c'était pas aussi facile à apprendre que maintenant. Maintenant, t'as Skillshare, t'as des tutos sur YouTube,
peux aller sur Fiverr et puis te prendre une...
C'est ça. C'est ça, tu peux le faire. Maintenant, en édition, tu remarques que donc sans l'auteur, l'édition n'existe pas. Parce que qui va écrire les bouquins ? Mais l'auteur touche pour un premier roman, après ça monte, entre 8 et 10% de droits d'auteur. Si on vous propose moins, refusez.
Oh la vache, c'est incroyable.
Genre, non mais, vous êtes en jeunesse, même en jeunesse, même en album pour enfants, si on vous propose moins, vous refusez. C'est de l'arnaque.
Je suis quand même choqué, tu te rends compte, 8 à 10%. C'est ça. C'est toi qui produis une œuvre.
Mais en fait...
Tu ne récupères que 8 à 10%.
Et le pire, c'est que c'est même pas la faute de l'éditeur. Parce que ce qui prend le plus, c'est la distribution. J'avais vu une espèce de sondage gâteau, enfin, de graphique gâteau, tu sais, avec des parts. Mm-hmm. Et il me semblait que le distributeur prenait 46% du revenu d'un roman. Donc, c'est même pas le coût du roman distribué en petite part de gâteau, c'est vraiment le bénéfice. Et donc, t'avais 46% pour le distributeur, t'avais 30%, je crois, pour l'éditeur, et le reste, c'était pour l'illustrateur et l'auteur et le correcteur. Ça fait pas grand-chose. Et donc, t'as ça qui fait que les auteurs ont beaucoup de mal à en vivre, parce que, fatalement, ça veut dire que tu vas, vendre un brochet 20 euros, tu vas toucher 2 euros par exemplaire vendu, avant les taxes. Tu vas toucher 2 euros avant les taxes, et tu vas peut-être, si t'as de la chance, vendre. Et vraiment, c'est si t'as de la chance, j'insiste, vendre 1000 exemplaires. Donc, ton bouquin va te ramener
1000 euros.
Bah, 2000 balles avant taxe.
Ouais, voilà, mais après taxe, 1000 euros.
Ouais, même pas, parce qu'en vrai, les taxes sur les artistes auteurs sont très élevées. Et tu dois ajouter à ça le fait que côté francophone, on a très peu d'avance. Donc l'avance, c'est une avance sur droit d'auteur, et en fait, tu rembourses tes droits d'auteur, et quand t'as fini de rembourser, tu touches tes droits. Alors, c'est un système qui est extrêmement avantageux pour l'auteur, quand les sommes ne sont pas ridicules. C'est-à-dire que ici, les plus grosses avances dont j'ai entendu parler pour un primo-auteur, c'était 1500 euros. Ton roman, ça t'a pris un an pour l'écrire, le corriger, l'envoyer et tout, et tu touches 1500 euros dessus.
C'est pour ça qu'après, on peut pas se plaindre que les auteurs vendent leurs bouquins à tous les studios cinématographiques ou télé, parce que ça leur apportera bien plus que n'importe quelle vente de livres.
Oui, puis tu peux pas non plus être... Enfin, du coup, quand tu connais tout ça, tu peux pas être choqué du fait que la majorité des auteurs travaillent à côté. C'est normal. Mmh. Genre, mais moi, je ne veux même pas essayer de faire que ça. Parce que, imagine, je sors 2 romans par an, et j'en ai 3 de suite qui marchent pas. Mmh. Je suis ruinée, en fait. J'apprécie le confort matériel. J'aime bien avoir un toit sur la tête et de la bouffe dans mon assiette.
Ah bon, t'aimes pas vivre dans la rue.
C'est ça. Et puis, choquant, je sais. Et du coup, bon, vivre de mon écriture, je n'envisage même pas. Ça sert à rien de vouloir quelque chose qui n'est pas possible, en fait.
T'as des statistiques là-dessus, sur le nombre d'auteurs qui vivent de ça ?
J'avais entendu 1%. Oh. Parce que là, tu comptes les auteurs qui n'ont écrit qu'un seul bouquin et tout, et du coup, tu tombes à 1% d'auteurs au total qui vivent de leur écriture. Sachant que vivre de leur écriture, ça veut dire gagner un SMIC après déduction des taxes. Il faut en vendre pas mal des bouquins quand même pour arriver à un SMIC avant déduction des taxes.
Donc, quand on écrit, en gros, il faut prévoir un maximum de produits dérivés pour l'adaptation en film.
L'adaptation en film, en fait, ne fonctionne... Enfin, chez nous, ça n'arrive quasiment jamais. C'est triste. Mais les studios sont tellement frileux parce qu'on écrit énormément de fantasy, de fantastique, etc. Et les studios, qu'est-ce qu'ils veulent adapter côté francophone? De la romance.
Oui, non, mais et c'est après, tout. Après, il faut espérer être repéré par un studio américain, quoi.
Ouais, voilà, mais ça, c'est pas... En fait, c'est ce qu'on appelle la licorne. Tu sais à quel point c'est rare, une licorne ?
Ouais.
Voilà.
La fameuse licorne.
C'est pour ça que j'avais écrit un article qui s'appelle « Vous n'êtes pas l'exception à la règle ». C'était justement pour essayer de remettre du plomb dans le crâne des auteurs qui pensent qu'ils vont en vivre. Qui sont souvent des auteurs très jeunes, très naïfs, qui ne connaissent pas le métier. Et qui ne connaissent pas le milieu. Et du coup, j'avais écrit cet article, et maintenant, à chaque fois qu'on me dit « Ouais, mais moi, je vais vivre de mon écriture », je dis plus rien, je passe juste l'article. Je me dis « Écoute, va lire ça, et après, on en reparle, mon petit chat. »
C'est pas très joyeux, tout ça, quand même.
C'est-à-dire que je préfère casser leurs espoirs maintenant, tant qu'ils commencent encore, que plus tard, quand ils seront investis. Parce qu'en fait, tu peux tout à fait écrire sans avoir envie d'en vivre. Et c'est même mieux, parce que du coup, t'as pas la pression. Je veux dire, ouais, t'as la pression quand même de faire un beau travail et que ça plaise au lecteur et que, rien que d'en parler, j'ai un peu le souffle court et un peu le cœur qui s'emballe parce que je pense forcément à mon projet en cours. Et voilà, effectivement, t'as cette pression-là, mais par contre, tu n'as pas celle de « je dois vendre un best-seller à chaque fois que j'écris un roman ouais. ». Best-seller 100 000 exemplaires. Juste, déjà, niveau francophone, c'est quasiment impossible. Alors, chez nous, les chiffres du best-seller sont baissés, du coup, de manière à coller avec le marché. Mais je préfère vraiment garder ce chiffre anglophone de référence qui dit qu'un best-seller s'est vendu 100 000 exemplaires.
Non, c'est clair. C'est clair. Je vois pas pourquoi on baisserait les normes, en fait. C'est sûrement pour des questions marketing. Mais
quand tu te dis que même côté anglophone, peu d'auteurs vivent de leur écriture à 100%, genre, il y a une vidéo très intéressante d'Alexa Dunn qui en parle. Elle parle beaucoup d'argent et d'édition côté anglophone, et du coup, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Et elle
Alexa, t'as dit ?
Alexa Dunn, comme le verbe donner. Du coup, elle parle beaucoup d'argent, parce qu'elle est très transparente là-dessus, parce qu'elle est américaine, et que c'est pas comme les francophones qui se hérissent dès qu'on parle d'argent. Et elle disait, voilà, effectivement, pour moi, l'écriture, je considère ça comme un travail. Et par contre, en vivre, non, parce que c'est trop précaire par rapport à un travail. Alors c'est vrai que chez eux, ils n'ont pas d'assurance santé automatique, etc. Donc c'est d'autant plus précaire. Mais ils touchent aussi beaucoup plus d'argent par rapport à l'édition. Du coup, si même chez eux c'est précaire, imagine chez nous, quoi.
Et combien, est-ce que tu as une idée de combien te coûte une auto-édition sur Amazon, par exemple? Si demain, alors attends, je vais aller dans l'exemple concret.
Ouais.
Demain, j'ai un bouquin qui est prêt. Je le fais corriger par un correcteur. Je passe par Nyx. Elle me corrige. elle m'a dit, ton bouquin est bien, merci. Je l'ai corrigé, voilà, boum, tout est nickel. Ok. Je passe par un illustrateur, je me fais faire une couverture. Les droits de cette couverture m'appartiennent, vu que j'ai payé pour et tout. J'ai négocié d'avoir entièrement les droits de la couverture, elle est à moi. Je vais sur Amazon, je mets mon bouquin en auto-édition. C'est-à-dire qu'une personne qui tombe dessus peut cliquer sur commander, Amazon imprime ce bouquin et me l'envoie. Ouais. C'est ça le concept chez Amazon. Hein.
Alors, chez Amazon, moi déjà, si tu vas en auto-édition, je te conseillerais de faire que de l'auto-édition numérique dans un premier temps. Okay, parce que pour le coup, le numérique c'est gratuit, il me semble. En tout cas, aux dernières nouvelles, j'ai regardé ça il y a des années. Aux dernières nouvelles, il y a des années, c'était gratuit. Et tu touchais aussi un plus gros pourcentage.
Okay.
Maintenant, si tu te demandes ce que ça va te coûter, je vais te demander, est-ce que tu veux que je te dise combien ça va te coûter de faire plutôt ta correction et ta couverture? Parce que ça, je peux te dire combien ça va te coûter à peu près.
Dans les 500 euros, non?
Alors, une correction, c'est effectivement entre 400 et 500 euros. J'ai fait récemment un devis pour une amie qui voulait se faire corriger par chez moi, et elle m'a donné son nombre de signes pour son bouquin, et comme c'est une pote, je lui ai fait un prix, et du coup, au lieu de lui faire à 480, je lui ai dit, écoute, 400 euros. Voilà. Et pour une couverture, alors ça dépend si tu veux une illustration ou une photo. Si tu veux un truc avec de la photo et du photomontage pour un e-pub, ça commence, moi en tout cas je l'ai fait à 75 euros avec des bonus potentiels parce que je fais aussi du design, mais j'ai vu des gens qui avaient eu des formations et des diplômes etc qui eux montaient jusqu'à 500. Par contre, si tu veux une illustration, ça commence à 1500 euros les prix que moi j'ai vu, comme... mais c'est normal en fait, genre le mec
je remets pas en cause
Le mec va prendre 2-3 semaines à faire sa couverture.
La qualité du travail ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression d'avoir vu d'autres prix.
Et c'est pour ça que t'as énormément... Alors, si t'as vu d'autres prix, c'est la qualité qui baisse aussi. C'est-à-dire que moi, là, je te parle des tarifs que j'ai vus de deux illustratrices, que je vais pas citer parce que je pense pas qu'elles veulent que je crie leur prix sur les toits. Mais je sais qu'elles font de la qualité. Elles sont très connues pour leurs illustrations parce qu'elles ont fait des illustrations pour des romans qui vont sortir bientôt. Et qui sont d'une qualité incroyable. Et donc, elles font payer environ 1500 euros. Parce qu'en fait, elles se font payer à l'heure. D'accord. Et quand tu te fais payer à l'heure, le tarif monte direct. Et du coup, rien que pour faire éditer ton roman en auto-édition, ça va te coûter environ 2000 euros. En partant du principe que mettre en ligne sur Kobo ou sur Amazon, c'est gratuit. Mais tu vas jamais récupérer 2000 euros sur ton bouquin, à moins d'avoir une chance inouïe et d'être une licorne.
Bah après, derrière, il faut faire du marketing à fond, sinon...
C'est ça. Et les auteurs, j'ai remarqué, sont très peu doués en marketing. Même moi, avant de commencer à m'auto-former, j'étais vraiment une vraie merde. Je savais pas à quelle heure il fallait publier sur Twitter. Je publiais tout le temps le week-end, et du coup, après, je m'étonnais que personne ne lisait mes tweets et ne réagissait. Ben oui, forcément. Tu publies au moment où, sur Twitter, il n'y a que les gens qui pleurent et les gens qui font du drama. Voilà. Je ne savais pas utiliser Instagram, et d'ailleurs j'apprends toujours, j'ai toujours un peu de mal. Je ne savais pas qu'il me fallait absolument un site auteur. Ça aussi, hein, c'est un coût. Vous devez payer un développeur pour le faire, ou alors vous devez payer un hébergeur et le développer vous-même si vous avez des connaissances. C'est-à-dire
Qu'est-ce que tu entends par un site auteur?
C'est un site. Alors le mien, c'est pas exactement un site auteur parce que je fais plus que ce que fait un site auteur d'habitude, mais en gros, c'est un site promotionnel de type vitrine où tu vas avoir ta biographie. Tout ce qui est contact pour des services presse. Tu vas avoir ton dossier presse d'ailleurs, avec une photo, une petite biographie de quelques lignes, etc. Tous tes livres publiés ou autopubliés, avec des résumés et des liens d'achat, et des liens vers des interviews, des podcasts, des séquences télé, etc. que tu as faites. C'est une vitrine, c'est ta carte de visite. Sauf qu'au lieu de tenir sur un petit carton glacé très sympathique, ça tient sur un petit millier de lignes de code.
Ça, faites-le pour 170 euros par an sur Wix ou un truc comme ça. Si
170 euros de... Putain, t'es généreux. Hein. Moi, je paye 50 euros par an pour mon site.
Ouais, mais après, dès que tu dois faire une modification, tu dois payer un développeur un peu plus cher que ça, non?
Non, non, mais je fais moi-même. Mais après,
ah oui, mais voilà, tu le fais toi-même.
je suis très main dans le cambouis.
Et voilà, t'es très débrouillarde. Très débrouillarde.
J'adore apprendre toute seule. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu me hisser dans cette espèce de figure de professeur du monde littéraire. C'est juste parce qu'en fait, j'ai appris toute seule. Et après, j'ai réenseigné, en fait.
Hmm. Bah, tu sais que c'est une des meilleures façons d'apprendre aussi. Hein.
Moi, j'adore ça.
Aux autres. C'est souvent sous-estimé, mais on dit, il y a un proverbe qui dit quand une personne, alors c'est en anglais, when one teach, there is two learning. Mm-hmm. Donc,
je suis assez d'accord.
Anglais est devenu horrible.
Ah, il a pris la fuite, il a pris ses clics et ses claques et il s'est barré par la fenêtre.
Le fait de ne plus pratiquer depuis que je ne travaille plus dans l'aéronautique, c'était.
Non, même moi, genre je suis full bilingue, mais par contre, me demande pas de parler. Hein.
Non mais j'ai envie de te demander là.
Non.
Faut pas me lancer sur des trucs comme ça.
Je tiens à mon image.
Non mais voilà, en dehors du fait que toi tu fais pas mal de choses par toi-même, mm-hmm. C'est vrai qu'on a l'avantage quand même de vivre à une époque où il y a pas mal d'outils qui sont à disposition.
Ouais.
Aujourd'hui t'as des sites, alors j'ai cité Wix, faudrait que je fasse si j'étais à la télé je devrais en citer trois autres.
Le pire, c'est que Wix est un peu cheap. Je viendrai te voir, oui. En MP, parce que j'ai oublié le nom, avec une référence d'un truc qui est vraiment fait pour ça.
Et ben, je le mettrai dans les notes.
Et tu le mettras dans les notes, parce que vraiment j'ai oublié le nom, mais il y a des youtubeurs anglophones qui font leur pub, enfin qui sont sponsorisés par eux.
Il y a Squarespace, il y a.
Oui, c'est ça, c'est Squarespace.
Bah voilà.
Ils font beaucoup de sponsors en ce moment, et j'étais ultra jalouse en voyant leur truc. Et puis je me disais, mais pourquoi t'apprends pas à le faire toi-même, Nyx?
Il y en a plein, ouais. Il y en a plein. Même moi, j'ai été développeur, j'ai arrêté de développer parce que, en fait, quand tu vois les outils qu'il y a, je ne suis même pas sûr que le temps de passer à développer vaille le coup. Et surtout, la peine de la mise du maintien et tout, mm-hmm. Du site, la mise à jour des dépendances, etc. Après, moi, je suis un flemmard à ce niveau-là. C'est-à-dire que si je peux trouver une solution qui marche tout seul... le mieux possible, je vais le faire. Mais oui, donc il y a plein de sites qui peuvent te permettre de le faire, mais tu vois, c'est intéressant. C'est un truc, j'avais même pas conscience que tu avais besoin d'avoir une vitrine comme ça aujourd'hui quand tu es auteur.
Mais même les auteurs non publiés devraient en avoir une. Genre, moi, je suis pas encore publiée, même si j'espère tendre là-dessus. Mais par contre, j'ai déjà une vitrine. C'est juste que ma vitrine, pour l'instant, me sert essentiellement à écrire des articles où j'engueule les auteurs parce qu'ils font du caca. Et je leur dis, c'est pas comme ça qu'il faut faire, les enfants. Écoutez Tata Nyx, elle a les bonnes astuces.
Après, tu disais tout à l'heure que beaucoup d'auteurs sont très mauvais en marketing. C'est le cas dans beaucoup de domaines, en fait. On s'aperçoit que le marketing, on ne se rend pas compte, mais le marketing, c'est vraiment c'est une science. Hein. Ça ne s'invente pas comme ça. Même, tu as beau lire 50 000 trucs, c'est toujours dur. Et surtout, je trouve que c'est tellement changeant qu'en fait, il n'y a pas de recette qui peuvent durer dans le temps. Un truc qui marchait hier, potentiellement, ne va plus marcher demain parce qu'il y a un algorithme qui va être changé et qui va faire que ce que tu fais ne remonte plus autant qu'avant. Mmh. Demandez aux créateurs YouTube, hein. Ils vous diront à quel point ils galèrent. D'ailleurs, YouTube s'est pris un beau backlash là-dessus il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ont voulu faire une blague sur Twitter et c'est pas bien passé. Mais en gros, je trouve que le meilleur moyen, le moyen le plus sûr et le plus viable dans le temps, c'est exactement ce que tu fais, c'est-à-dire se créer une communauté.
Oui.
D'être présent, de juste échanger avec des gens. Il n'y a rien au niveau marketing qui pourra remplacer ça. L'échange en toute transparence et honnêteté et la création de contenu. Quoi.
Et alors, il faut être de bonne volonté. Genre, si vous essayez de créer une communauté comme moi je l'ai fait, en ayant le but de créer une communauté, ça va se voir.
Ça va pas marcher. Hein.
Genre, vraiment, en fait, j'ai eu un gros coup de poing en termes de communauté, enfin, coup de poing positif. Hein. C'est quand j'ai fait mon thread qui parlait de Dream. Qui est donc une plateforme qui essaye de démarcher des gens de Wattpad, sauf que c'est une arnaque. Okay. Et en fait, j'ai fait un thread où j'ai tout expliqué, où j'étais en mode, voilà, alors il y a ça dans les CGU, il y a ça dans le contrat qu'ils vous font signer, j'ai réussi à obtenir le contrat, voici des clauses, elles sont abusives, elles sont illégales, en plus ils sont basés à Singapour, donc ça veut dire que si vous voulez les poursuivre, vous devez aller à Singapour. Voilà, donc j'ai fait une liste.
Je précise que toi, tu es dans le juridique aujourd'hui, dans ton métier à côté de...
actuel.
Dans tes études, voilà. et je l'espère, ton métier.
J'espère aussi.
Et du coup, c'est vrai que tu as une connaissance un peu de tout ce domaine.
C'est ça. Et du coup, c'est aussi le truc qui a fait passer un peu mon Twitter de communauté pas très fonctionnelle à communauté qui a explosé. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'étais à 700 abonnés. C'était en juillet, je crois, que j'ai fait ça, ce thread. Et maintenant, je suis à 1200 aidés. Donc, alors, pour le Twitter littéraire, c'est énorme. Faut le savoir. Pour le Twitter tout court, c'est ridicule. Bon. Voilà. Mais en attendant, c'était pas... En fait, mon but, c'était pas de gagner des abonnés quand j'ai fait ce thread. Mon but, c'était de prévenir les gens que c'était dangereux et qu'il fallait faire attention. Un autre truc qui m'a fait gagner des abonnés, c'est ce que j'appelle le thread de la positivité que j'ai fait il y a vraiment il y a genre une ou deux semaines, où je posais juste 15 questions et c'était interdit de répondre de manière négative. C'est-à-dire que tu pouvais pas répondre à la question « qu'est-ce que tu aimes dans ton écriture ?» Tu pouvais pas répondre rien. J'ai gagné une centaine d'abonnés. Juste parce que mon but, c'était que les gens voient ce qui les rendait heureux dans l'écriture. Alors je sais que ces formules fonctionnent, mais je peux pas les surexploiter ou jouer trop dessus, parce que déjà mon but c'est pas d'avoir des chiffres pour les chiffres, ça ne sert à rien. Si je devais avoir un but en termes de communication, ce serait le taux d'interaction. Et qu'est-ce qui génère le taux d'interaction? La sincérité. Et les dramas. Mais les maisons d'édition détestent le drama, donc faites pas ça.
Du coup, on approche de la fin, Nyx.
Ouais.
Je vais te poser mes fameuses questions bateau.
Ouais.
C'est extrêmement cliché, mais j'aime bien.
J'adore les questions bateau.
Si demain, tu devais emporter... Alors, je fais varier, moi. C'est un peu toujours le même sens. Si tu devais emporter un livre sur une île déserte, ce serait lequel?
Mais c'est pour y rester, ou...
Écoute, tu sais pas combien de temps tu vas y être.
Ok.
Potentiellement des années.
Bah du coup, je prends l'intégrale du Pacte des Marchands par Pierre Bottero. Et c'est un seul bouquin parce qu'il y a une édition reliée.
D'accord.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Pacte des Marchands de...
Pierre Bottero. Marchombre, par contre. Je crois que t'as dit Marchand.
Ah oui, j'ai dit Marchand. Marchombre. Bah, je le trouverai et je le mettrai en lien dans la description.
Il est plus vendu en intégrale, mais les tomes individuels le sont encore.
Ok. C'est un vieux livre,
c'est pas que c'est un vieux livre, enfin, quoique il date d'avant 2008, donc en édition c'est vieux.
Ouais.
Mais surtout que l'auteur est mort en fait.
D'accord.
Donc voilà. Pour trouver des éditions intégrales, c'est devenu compliqué.
C'est un truc que je trouve absolument dommage. Enfin, soit je connais pas, soit ça n'existe pas. Mais ça me paraît très bizarre que ça n'existe pas, parce qu'en général, l'humain a tout inventé quand il s'agit d'idées de commerce. C'est un service où tu peux envoyer un... Si tu veux, imagine, je vais prendre un exemple très concret. J'ai un tome de La Croisée des Mondes, l'intégrale, donc les trois tomes reliés en un, qui est super épais, qui a une couverture qui est en soi très jolie, mais je trouve que ça pourrait être beaucoup plus beau. Il n'y a aucun service qui te permet de retirer cette couverture, de l'envoyer chez une personne pour faire une magnifique couverture en cuir, par exemple, ou un hardcover à ta sauce, sur lequel tu enverrais un design et tout ça, et tu ferais toi-même.
Alors, en termes de commerce, c'est-à-dire de commerce de gros, ça existe en édition et ça devient de plus en plus courant. En fait, ça existe surtout côté anglophone des éditions reliées, qui sont souvent sublimes. Parce qu'eux, en fait, ils te sortent le relié et le paperback, et c'est deux tranches de prix différentes. Mais côté francophone, de nouveau, on n'a pas le marché qui le permet. On ne vend pas assez de livres par an pour avoir un relié qui serait rentable. D'autant plus qu'on utilise quand même, il faut le dire, des matériaux de meilleure qualité. C'est-à-dire que moi, mes paperbacks, s'il pleut dessus, je peux dire adieu à mes paperbacks. Voilà. Cela dit, pour les très beaux objets uniques, il existe des artisans, notamment sur Etsy, qui le font. Mais souvent, la légalité du procédé peut être remise en question parce qu'ils vendent en soi... Donc en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent le bouquin, ils refont une couverture et ils revendent le bouquin.
Ouais.
Le truc, c'est qu'en achetant le bouquin, ils n'ont pas acheté la licence d'exploitation commerciale. C'est-à-dire que le vendre d'occasion, c'est différent, mais le vendre pour plus que son prix, t'as pas le droit. Ou même le revendre à son prix, t'as pas le droit.
Ouais, mais alors, si moi, je t'envoie un bouquin qui est à moi pour que tu me fasses faire la couverture, légalement.
Ça, en fait,
j'ai le droit. C'est comme faire une modification sur ma voiture.
Tu me fais payer le service, enfin, tu payes le service, et le livre t'appartient, et tu fais que modifier ton livre. Donc oui, ça, c'est possible. C'est juste, les artisans qui font ça sont souvent pas francophones. Et du coup, je te laisse juste imaginer le prix d'un envoi à l'international jusqu'aux États-Unis.
Ouais, ouais, je sais.
Voilà.
Je sais. Il n'y a pas longtemps, ma femme a voulu se faire rembourser un truc 30 euros, quoi.
Ouais, voilà, donc finalement, le prix du machin. Hein,
Donc ça vaut pas le coup.
Mais cela dit, il faut savoir que même en grosse distribution, tu as des éditions comme les éditions Bragelonne qui commencent à faire des belles éditions. Cela dit, moi, ça me chafouine un peu. Ça me chiffonne et ça m'agace. Parce que je trouve que plutôt que de refaire 15 éditions du Sorceleur, parce que c'est vraiment, là c'est abusé, il y a 4 éditions au moment où je te parle qui sont en vente en parallèle.
Bah, tu veux qu'on parle des éditions Harry Potter, hein.
Harry Potter, c'est la même chose. Mais je trouve ça très dommage de ne pas investir l'argent qu'ils investissent là-dedans dans des nouveaux auteurs. Parce que souvent, j'ai vu des chiffres, en fait, de... C'était pas Bragelonne, mais c'était une autre maison d'édition qui faisait des trucs comme ça. Et ces rééditions, en fait, sont un peu à perte, tellement ça coûte cher. Parce que, de nouveau, le marché est trop petit.
Ouais.
Et autant réimprimer, oui, c'est normal, tu vois, mais rééditer avec une couverture reliée, ou alors une couverture en cuir souple, gravée, ça coûte tellement cher. Et t'as
même quand ils te vendent ça 50 balles.
Mais oui, parce que, en fait, quand ils te le vendent 50 balles, c'est qu'ils ont pas le choix. C'est-à-dire que, par exemple, le Sorceleur en cuir souple gravé, ça coûtait 20 euros, je crois. Mmh. Et ils vendaient, à mon avis, à ce prix-là, ils vendaient à perte, parce qu'il n'y a pas moyen qu'ils aient vendu 200 000 exemplaires. Et c'est ce qui serait nécessaire, en fait, pour que le...
Tu crois, avec la série Netflix et tout ?
Je pense qu'il n'y a pas moyen, parce qu'en fait, le livre est sorti bien avant la série Netflix, cette édition-là. Genre, on parlait même pas encore d'une série Netflix quand ils l'ont réédité.
J'en vois encore de temps en temps à la Fnac des éditions en cuir, donc je sais pas si...
C'est ça, t'as aussi... récemment, ils ont réédité L'Appel de Cthulhu, je crois, dans cette édition-là.
Ouais, 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 je l'ai vu.
Pareil, j'ai du mal à me dire qu'ils ont vendu plusieurs centaines de milliers d'exemplaires.
Je sais pas, je me dis s'ils le font, c'est que ça doit être rentable quelque part. Enfin bon.
Oui, je... Enfin, après,
il n'est pas dans le secret des dieux.
Il y a plusieurs raisons qui peuvent te pousser à faire une édition pareille. Tu as aussi le prestige.
Ouais.
Le prestige qui est un investissement sur le futur, mais qui ne te rend que très rarement de l'argent à l'instant T.
Ouais, c'est clair. Écoute, ouais.
Bon, du coup, continuons peut-être tes questions bateau.
Du coup, oui, je... Bah, t'inquiète pas, il ne reste plus qu'une autre question. C'était si tu devais donner un conseil à des gens qui ont envie d'écrire, de devenir auteur ou autrice, quel serait-il ?
Trouver une communauté, enfin rejoignez plutôt une communauté qui existe déjà et qui vous veut du bien. Je parle de, notamment de mon serveur d'écriture d'entraide. Voilà.
Je après, il y a d'autres. Tous les liens en description.
Il y a d'autres choses. Hein. Il y a notamment la communauté sur Twitter est trop vaste pour qu'on vous veuille vraiment du bien, dans le sens où pour vous vouloir du bien, il faut vous remarquer. Mais il y a moyen de trouver des petits noyaux de personnes qui donnent beaucoup de conseils, qui remotivent quand il y a un souci. Cela dit, rappelez-vous que ces auteurs qui vous remotivent et tout, ce sont aussi des êtres humains avec leur propre période basse. Genre récemment, j'ai dû prendre 10 jours de vacances totales parce que je m'étais surmenée, et notamment, je m'étais surmenée en donnant trop de mon temps à des auteurs sur Twitter qui avaient besoin d'aide. Mais voilà, ces gens existent. Juste rappelez-vous que ce sont des gens, et que du coup, déjà, s'ils vous répondent pas dans la journée, c'est probablement qu'ils sont occupés. Par contre, s'ils vous rappellent pas dans la semaine, enfin, s'ils vous répondent pas dans la semaine, c'est probablement qu'ils ont oublié. Et donc, relancez-les gentiment. Soyez toujours polis avec les autres auteurs.
Même si vous les trouvez.
Ouais, mais c'est parce que franchement, dans la communauté, j'ai vu des cas. Hein. Genre.
Il y a
des gens.
Il doit y en avoir partout, honnêtement.
Oui, il doit y en avoir partout. Mais.
T'as des gens, des fois, ils viennent t'agresser pour rien.
C'est ça. Alors, faites pas ça. Et puis, de manière générale, les prises de position politiques sur Twitter, si vous voulez être édité, évitez.
Ouais.
Parce que vous soyez de droite ou de gauche, même si c'est vrai que l'édition est un milieu traditionnellement plutôt de gauche, que vous soyez de droite ou de gauche, il y a forcément des éditeurs qui seront pas du même côté que vous. Voilà. et du coup vous fermez automatiquement votre audience à cet éditeur et vous fermez un peu une porte sur votre propre pied. C'est très douloureux, ne faites pas ça chez vous. Et du coup voilà, ayez conscience en fait que vous avez une image, que la communication c'est important, et si vous publiez sur Wattpad et que personne ne vient vous lire, c'est probablement parce que Wattpad est noyé sous les nouveaux récits et que du coup c'est pas le bon endroit pour se démarquer et se trouver un public. C'était plus qu'un conseil, mais
De toute façon je pense que on a matière à faire un deuxième épisode d'Anix, et je pense qu'à un moment
je suis dispo pour
faire un autre.
Moi, tant que tu me préviens suffisamment à l'avance pour que je puisse libérer mon dimanche et que ça tombe sur un dimanche où mon fiancé est occupé hors de l'appartement, bah voilà.
Bah carrément, non, mais on pourra organiser ça, y a pas de souci. Peut-être dans quelques mois pour cesser le temps de voir un peu évoluer tout ça. Mm-hmm. Et en tout cas, je vous invite fortement à suivre Nyx si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le milieu de l'écriture.
Yes, il paraît que c'est bien.
Sur tout ça. Moi je le dis, c'est bien. Et l'accès à ton Discord est gratuit ou payant?
Non, il est gratuit.
Il est gratuit. Ben voilà. De toute façon, je mettrai un lien qui regroupe tous les liens de Nyx. Vous pourrez voir un peu tout ce qu'il a fait. Tu es très active et sur tout un tas de sujets.
Il est vrai.
Mais non, mais c'est très bien. Personnellement, je lutte contre la procrastination de façon régulière. Donc
mais tu crois que moi, non, peut-être.
Mais tu luttes mieux que moi.
Honnêtement, c'est de la discipline. Hein. Sinon, je resterais toute la journée sur mon lit à lire.
À lire. Parle pas de rêve comme ça. Tu sais, c'est ce fameux truc que cette question, je vois, j'ai l'impression régulièrement sur Reddit, sur Twitter et tout ça. Imaginez, vous deviez passer 2 mois dans cette maison au milieu des bois sans internet. Et moi, je suis là. Quel est le problème? Si j'ai des livres, il n'y a pas de souci. Hein.
Moi, même pas des livres, hein, juste ma liseuse. Hein.
Mais c'est ça. Quel est le problème? Il n'y a aucun souci.
Alors, tant que du coup, j'ai pas besoin d'internet pour commander à manger.
C'est ça.
Tu vois, c'est à manger et de la lecture, c'est bon. Je suis partie pour 6 mois. Oh la vache! Putain, je viens de tourner la tête vers la fenêtre et hydrache.
Ah, bah c'est parce que le podcast est fini.
Oui, parce qu'il y a encore 10 minutes, il faisait bleu.
C'est depuis que j'ai dit qu'on arrivait à la fin. Voilà, désolé, Nyx. Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie d'être venu. Et puis, je vais mettre tous les liens. Yes. Et on se dit à plus. Ciao, ciao.
À plus. Ciao.